Il me semble, Célestin, que beaucoup des problèmes que tu as évoqués ne sont pas spécifiques à l'Afrique et qu'on les trouve avec quelques variantes dans nos sociétés. Alors, la famille élargie, il y a peut-être plus longtemps qu'elle a disparu de nous. Distance géographique l'ont fait éclater, la taille des logements également. Mais moi, ce qui me frappe entre les générations actuelles et puis ce que j'ai connu dans mon enfance, c'est qu'il y avait toute une éducation possible par les pères pour les enfants dans la rue, dans les terrains de jeu. Et j'ai l'impression que dans nos pays et peut-être en Afrique aussi, ces aspects-là sont en voie de disparition. On n'ose plus laisser ses enfants hors de la famille nucléaire, que ça soit, enfin, en tout cas ici et sans doute en Afrique, non?
Alors, une première question, on en prend une deuxième, c'est la règle du jeu, c'est une deuxième question.
Est-ce que on note une différence par rapport à toute cette toute cette confrontation à la modernité entre les systèmes patrilinéaires et matrilinéaires? Est-ce que par hasard il y a des différences de réception de la modernité ou de critique ou de manière de réagir?
Oui, Marie-Christine, ce que tu es en train de dire, c'est tellement que à un moment donné, il y avait cette, je dirais, société traditionnelle française. Voilà, la France. Parce que il y a eu des choses qu'il y avait aussi par le passé. Je l'ai dit, on pense que la modernité, c'est ce qui est actuel et qui s'oppose à ce qui est du passé. Mais on a encore, je ne sais pas si ça existe ici, on a encore, je l'ai dit tout à l'heure, la famille africaine traditionnelle et rurale, plus en Afrique. Donc, ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui ici, c'est tellement, c'est des choses que vous avez eues à observer ici aussi, ce qui se passe en Afrique avec cette modernité. C'est vrai, ça s'ajoute encore avec les technologies de l'information et de la communication. Bien sûr, quand vous voyez des familles, je dirais entre guillemets, parce que il y en a qui disent en Afrique qu'ils sont une famille moderne, et puis on les trouve plus dans les villes, dans les villes, on ne veut pas confier l'éducation des enfants à d'autres personnes. Or, si vous le faites comme ça, on dira que vous n'êtes plus africain. On dira, on va dire, chez nous, on dit, il fait le blanc. C'est comme ça, on va vous désigner. On dit, il fait le, je traduis littéralement, donc, il fait le blanc. Donc, on vous voit d'un certain œil, on dit, voilà, vous voulez faire une promotion. Moi, je crois que il y en a, donc, qui ne veut plus laisser l'enfant. Donc, la nucléarisation, là, ça existe, mais ce n'est pas accepté. Et les gens en souffrent aujourd'hui. Il y en a, il y a pas mal de familles qui en souffrent. Parce que, si vous prenez de la distance, nous, je prends l'exemple, moi, quand j'ai été admis au collège, je me suis retrouvé dans une famille un peu parente à ma mère. Donc, c'est là où je suis allé, suis resté dans cette famille-là, comme membre de la famille. Et puis, en ville, on vous envoie tous les enfants pendant les vacances, ou bien tout le monde vient. Tous ceux qui sont au village viennent pour les vacances. Mais aujourd'hui, il y en a qui ne veulent plus accepter cela. Donc, chacun pense que l'enfant, disons, c'est son cercle fermé là. Or, ce cercle fermé peut vous jouer des tours. Parce que vous aurez besoin aussi de cette famille-là. Donc, voilà, ça existe, bien sûr, mais ce n'est pas accepté. Maintenant, ce que Joël dit, oui, les deux, que ce soit la forme patrilinéaire ou matrilinéaire, les deux souffrent de la même manière. La forme patrilinéaire, je le dis, bon, c'est quand vous héritez du côté du père, c'est le masculin, et puis matrilinéaire, l'enfant, c'est du côté de sa mère. Donc, le patrilinéaire, vous portez le nom de votre père et tout ça. Donc, les deux souffrent de la même manière. On a des ethnies matrilinéaires plus en Afrique centrale, on en trouve aussi en Afrique de l'Ouest et même en Côte d'Ivoire. On a cela où vous héritez du côté de votre mère. Donc, on souffre de la même manière, je crois, les deux, qu'on fasse à la modernité de la même manière.
Est-ce que la natalité est toujours aussi forte malgré tous les problèmes que tu as cités, ou est-ce que le taux de natalité comme en Algérie, par exemple, il a beaucoup baissé, il est passé de 8 enfants par famille à 2 enfants, qui est la norme actuelle. Est-ce que ça a influé sur le fonctionnement du modèle familial en Afrique?
Voilà une première question. Est-ce qu'il y en a une deuxième?
Oui, j'en ai une, si vous permettez. Voilà, il me semble que traditionnellement, l'être humain s'oppose à l'autorité, et l'enfant s'oppose à l'autorité constituée par ses parents. Alors, dans les familles type européen, les parents, c'est au pire ou au mieux, c'est le père et la mère, et au pire ou au mieux, c'est une famille monoparentale. Donc, l'opposition est vraiment focalisée sur une, voire deux personnes au maximum. Dans les familles africaines traditionnelles, telles que Célestin les a décrites, où la famille au sens large, la famille élargie, est-ce que cette opposition existe aussi? Est-ce qu'elle est plus faible parce que diluée vis-à-vis des parents biologiques, des grands-parents, des cousins, des tantes, etc.? Est-ce qu'il y a cette espèce de focalisation de l'enfant ou de l'adolescent vers l'autorité familiale? Ou est-ce que cette autorité est diluée et du coup, ça passe mieux? On voit par exemple chez nous, des fois, les enfants supportent mieux les remarques des tantes et des oncles que de papa et de maman.
Ce que Nabil est en train de relever, c'est une réalité aujourd'hui. Il faut dire que le taux de natalité a baissé aussi, hein, à cause, justement, du fait que chacun devient responsable de ses enfants. Parce que avant, bon, vous faites un enfant, on l'envoie à un oncle, on l'envoie à une tante, comme je l'ai dit, il appartient à la communauté. Bon, voilà. Et de plus en plus, avec la situation économique aussi difficile, ça fait que les gens sont obligés de limiter. Mais autre chose qu'il faut signaler, je crois que la médecine a permis de comprendre un certain nombre de choses. Parce que avant, on fait des enfants, on se dit, on en fait et il y en a qui vont mourir. Donc, on se dit, voilà, on fait, il y a parmi ces enfants, on ne sait pas combien vont survivre, parce qu'en ce temps, le palu et les autres maladies qui sont là aujourd'hui, on arrive à contrôler et puis à contrôler la naissance. Le planning existe dans la tradition aussi, hein, la planification familiale, ça existe au niveau de la tradition. Mais avec les conditions, comme je l'ai dit, économiques et avec le fait que chacun reste un peu dans son coin, il y a limitation de la naissance, il y a baisse de taux de natalité. encore que il y en a dans certains villages, hein, il y a pas de limitation. Je vous donne un petit exemple qui me concerne. J'ai un neveu et la quarantaine, il y a déjà 5 enfants. Donc 5 enfants et ça devient un problème. Donc voilà. Donc ça c'est ce que je peux dire. Oui, on sent la baisse, surtout dans les grandes villes. L'opposition à l'autorité. Oui, ce qui se passe, c'est que l'éducation, parce que vous s'opposez dans, comme c'est la grande famille, il est difficile de s'opposer à l'autorité. Parce que l'éducation des enfants, les garçons, et il y a le rite de passage, hein, il faut signaler tout ça, les garçons, leur éducation sont confiées à leurs oncles, aux hommes. Et quand vous êtes dans le village, il y a la maisonnée, il y a le quartier. Et dans le quartier, tout le monde est responsable de l'éducation des enfants. Donc, s'il y a un comportement que l'enfant est, n'importe qui peut réprimer cet enfant-là. Et puis, les filles, on confie ça à des tantes, donc aux femmes, qui s'occupent de l'éducation des femmes. Donc, ce n'est pas directement votre maman ou votre papa qui s'occupe de votre éducation. Je l'ai dit, dans cette maison-là, dans cette cour-là, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de clôture. Donc, c'est ouvert. L'enfant peut aller dormir chez son oncle, il peut aller dormir ailleurs. Donc, ce n'est pas directement les parents, mais ce sont les oncles, les tantes qui s'occupent de l'éducation. Et après, il y a les rites. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'interdits, il y a un certain nombre de codes, et il y a des lois entre guillemets auquel il ne faut pas enfreindre.
Mais est-ce que les parents biologiques ont leur mot à dire, quand même?
Oui, les parents biologiques ont leur mot à dire, mais généralement, quand il y a des situations, vu que vous ne vivez pas seul dans votre espace, donc généralement, c'est les hommes, les oncles qui s'occupent de cela, parce que vous avez dans cette famille, cette grande famille là, il y a souvent pas d'espace pour père, mère, enfant. C'est tout le monde ensemble. Voilà. Donc ça fait que c'est difficile de dire qu'il faut une intimité entre vous et vos enfants, parce que votre enfant va manger avec les autres enfants de la famille. Donc c'est là où on suit le comportement de l'enfant. Il y a des choses, s'il a un mauvais comportement, donc on essaye déjà de le réprimander. Donc ce n'est pas directement le père. Mmh.
Donc c'est plus facile pour les parents.
Pardon? Oui. Alors je vais ajouter quelque chose par rapport à l'éducation des enfants. En fait, comme on vit en communauté, ce qu'une personne de la communauté fait, c'est toute la communauté qui endosse la responsabilité ou qui assume les conséquences des actes que quelqu'un de cette communauté peut poser. Ce qui fait qu'en général, quand il y a par exemple un enfant qui a un caractère un peu très prononcé ou très poussé, dans la famille, dans la grande famille qu'on a, on va toujours trouver quelqu'un qui va réussir à le canaliser. Donc, on va le confier à cette personne qui va l'éduquer comme son enfant. Parce que, en fait, comme on est tous liés, c'est pas l'individu, c'est la communauté. les parents peuvent dire, mais en général, ils ne peuvent pas s'opposer ou dire quelque chose de façon individuelle. C'est le groupe qui décide de ce qu'on fait, de comment on éduque les enfants et à qui on confie l'enfant par rapport au comportement de l'enfant.
Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène un peu inéluctable d'éloignement des enfants, des familles? Je pense simplement à l'éducation. Quand les enfants sont à l'école primaire, ils sont relativement près des familles, donc ils subissent effectivement l'influence des traditions de la famille. Le jour où ils passent au collège, ils s'éloignent un peu plus, parce que généralement le collège est un peu plus loin. Quand ils passent au lycée, ils découvrent d'autres, généralement les lycées sont dans les villes, ils découvrent d'autres formes de communauté plus moderne. Quand ils passent étudiants, ils vont encore un peu plus loin. Est-ce que finalement toute cette éducation que reçoit l'enfant n'a pas tendance à éloigner les enfants des familles et finalement un petit peu créer des conflits familiaux?
Moi j'en ai une. Alors, je posais la question de l'école, mais Benoît l'a abordé en termes d'éloignement, mais en termes de contenu d'enseignement, comment situe l'école par rapport à ces valeurs que vous avez qualifiées comme traditionnelles? Et je poserai la même question par rapport aux différentes églises. L'église chrétienne, est-ce qu'elles incitent les familles à aller vers des valeurs plus modernes, ou est-ce qu'elles se cantonnent, est-ce qu'elles promuent des valeurs qui sont plus traditionnelles? On a donc à la fois la place des églises et la place de l'école en termes de contenu, au-delà de la remarque que faisait Benoît, qui est par rapport à l'éloignement.
Merci. Je voudrais aussi dire, hein, s'il y a des gens qui ont des compléments de réponse, n'hésitez pas à intervenir, ou à demander à intervenir. Au niveau de l'école, d'abord, c'est vrai que la notion d'école, parce que l'enfant, s'il vit dans un village de pêcheurs, l'activité sera la pêche. Donc, on va l'initier à la pêche. Et il va grandir dans cette activité, s'il est agriculteur et autres. Maintenant, ceux qui vont à l'école, parce que tous ne vont pas à l'école. Il y a une lutte qui est menée avant, les jeunes filles ou les filles ne devaient pas aller à l'école. Mais je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et c'est positif. Donc, je prends moi mon exemple. Le collège n'était pas dans notre village ni dans notre commune. Ça n'existait pas, il faut aller ailleurs. Et puis là, on a trouvé une famille un peu apparentée et on m'a dit, tu vas rester chez telle personne. Ça permet aussi à la famille de suivre votre comportement au collège. Donc, on ne vous place pas n'importe où. Vous restez toujours à côté de quelqu'un, même si c'est en ville, on va chercher. C'est rare d'être isolé, c'est-à-dire les cités universitaires ou des studios, c'est rare. Donc, on vous met toujours à côté de quelqu'un. Sauf aujourd'hui, ça évolue. Même dans cette évolution, on vous met toujours ensemble. On loue un studio, vous êtes 3-4 à vivre ensemble pour vivre la vie de famille. Donc, le collège, le lycée. Maintenant, à l'université, on estime que voilà, vous êtes mieux, vous êtes à l'université. Mais on cherchera toujours à ce que vous ayez une attache avec quelqu'un de la famille, ou bien les week-ends, vous êtes obligé de revenir et en famille. Je prends encore mon exemple, parce que étant pêcheur, donc mes parents, disons mon père, il fallait revenir le week-end, aller à la pêche pour pouvoir avoir de l'argent, repartir dans la semaine. Donc, il y a toujours ce lien avec la famille. Donc, on ne coupe pas définitivement avec la famille. Si vous allez très loin, on va vous placer quelqu'un qui, ou si vous allez faire vos études à Paris, vous êtes à Montpellier, on trouvera toujours un parent à Paris auprès de qui vous vous placez pour continuer à suivre cette éducation-là. Maintenant, concernant l'école, bon, la place de l'école et de l'église, au début, vous savez, quand je prends l'exemple des missionnaires qui sont arrivés au Bénin, quand ils sont arrivés, ils devaient voir le roi, et puis il a proposé au roi une école. Le roi a dit, allez construire votre école loin là-bas, donc dans une autre ville, très loin, on dit, voilà, et dans la brousse. Ils ont compris que l'école, c'est le lieu de développement aussi. Donc, les premières écoles, surtout dans les lieux les plus reculés, dans les villages, c'était créé par des missionnaires. Parce que vous savez, là où il y a la station missionnaire, vous avez l'école et vous avez un dispensaire. Donc, là où il y a l'église. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça station missionnaire. Donc, là, il y a une certaine confiance, parce qu'on sait que surtout dans les écoles confessionnelles, on estime que là, au moins, vous allez recevoir une bonne éducation, une éducation chrétienne pour les chrétiens. Donc, il y a vraiment, on fait confiance, on sait que l'école, c'est le lieu où vous recevez quand même une bonne éducation. Bien sûr, après, il y a tout ce que nous disons par rapport à la modernité, par rapport aux mauvaises compagnies. Je vois, il y a Omer qui voulait intervenir.
Oui, si vous m'accordez la parole. Je voudrais dire merci au secrétaire général de la CEBA pour cette conférence, pour cette précision. Pour ajouter ceci, que les niveaux d'éducation sont à appréhender à divers niveaux. Il y a l'école, comme il l'a dit, il y a la famille, il y a l'église, il y a aussi ce qu'on appelle la rue. Voilà. Et ces quatre niveaux sont assez des niveaux importants d'éducation. Lorsque vous êtes à l'école, vous recevez ce qui peut vous permettre d'avoir la connaissance. Et en même temps, dans la rue, vous avez des gens qui peuvent déjà, souvent en Afrique, vous dire mais telle position, tel comportement n'est pas normal. Et au pire même, de vous signaler à vos parents. Vous dit, mais il vaut mieux que vraiment tel enfant puisse avoir un comportement assez aussi correct. Et puis l'Église a joué un rôle fondamental avec les structures qui permettaient à ce que l'enfant soit quand même à des niveaux donnés au niveau de l'Église. Les écoles de dimanche, des structures au niveau de la jeunesse, la chorale, autant d'éléments, les groupes de femmes, de prière, qui rassemblaient, formaient un tout pour la formation des enfants et puis de la famille africaine. Et c'est vrai aussi, lorsqu'on parlait de la famille au-delà des parents biologiques. Et c'est un élément dans l'éducation, puisque souvent et avant, l'école n'était pas très, très proche du lieu où habitent les parents. Et il fallait se déplacer. Et le collège était loin, comme il le disait. Et du coup, lorsque vous allez au collège, il faut s'attendre à être placé dans une famille que, du coup, vous ne connaissez pas et qui vous accueille. Et là aussi, tout ça, ça a forgé ce qu'on peut appeler la capitalisation d'expérience pour le jeune qui essaie diversifier un peu ses sources de formation, d'éducation. Mais aujourd'hui, avec la modernité, les écoles sont un peu partout. Hein, il ne faut plus faire une longue distance pour trouver telle école, même les collèges aussi. Et ce qui fait que, comme il le dit, la modernité nous frappe à la porte et tout change. Et il faut aussi compter avec cela et qui désormais donne un peu plus de possibilités aux parents biologiques de suivre les enfants à la limite de leur et sphère, ben, ce qui n'est pas toujours aussi facile pour eux, puisqu'on était beaucoup plus nombreux à suivre l'éducation, mais aujourd'hui le rôle avec la modernité et puis le barrage du fait que chacun veut rester un peu croité en soi et fait que bon, cette ouverture là manque de jour en jour. Ce qu'on peut appeler peut-être bon, difficulté, mais quelque part aussi c'est une chance que désormais chaque parent aussi ait la responsabilité de pouvoir prendre en charge les enfants et puis d'évoluer avec les nouvelles donnes. Donc voilà ce que j'ai voulu ajouter. Il y avait une question par rapport à la nativité, je crois, le pourcentage des naissances et autres. Et aujourd'hui, il y a un concept qui a évolué avec la pauvreté absolue qui croît et de jour en jour. On n'a même plus besoin de vous dire de réduire le taux de natalité avant que les parents même commencent par s'ajuster avec la cherté de la vie. Donc, encore une fois, merci pour ce développement.
Célestin, vous souhaitez réagir par rapport à l'intervention?
Quoique, c'est des compliments de réponse. Hein.
C'était des compliments. C'est des compliments. D'accord.
J'ai une question. Peut-on mettre en relation ce développement communautaire et ce mode de développement communautaire avec le problème du développement économique? Est-ce que c'est la structure traditionnelle est-elle un frein ou à quelles conditions peut-elle être un moteur pour articuler développement personnel et développement économique d'une cellule communautaire comme ces villages, ces familles?
Bonsoir Célestin Kiki, très heureux de vous revoir. j'aimerais savoir connaître votre point de vue sur la position de la famille africaine par rapport à la migration, à l'émigration ou à l'immigration selon du côté auquel on se place. La famille africaine a-t-elle une action à ce niveau-là? Merci.
D'accord, je vais tenter de répondre à ces préoccupations. Développement communautaire, développement économique. Il faut dire que au niveau de la famille, parce que je parle de la grande famille, la famille élargie, tout le monde contribuait à la vie économique. Puis, je l'avais mentionné, il y a encore dans des villages où plusieurs personnes se mettent ensemble pour développer une plantation, c'est-à-dire dans le domaine agricole ou même dans le domaine de la pêche, donc pour travailler ensemble. C'est vrai que l'un des aspects de la polygamie avant aussi, c'était d'avoir de la main d'œuvre pour le développement économique. Donc, je dirais que la communauté contribue aussi à l'économie. Ça, c'est ce que je peux dire, sauf si je n'ai pas très bien compris la question. Maintenant, genre heureux de vous revoir hein, avec Agnès que je vois derrière là-bas. Ouais. Quand on prend les familles ça a été toujours une histoire de migration. Moi, par exemple, mon village, on nous retrace d'où est-ce que nous sommes venus. Il y en a qui ont fui la guerre. On a fui la guerre et puis on arrive à tel endroit, on quitte et puis on est venu se réfugier de l'autre côté de la rivière chez nous, ou du fleuve, où on est à l'abri de la guerre. Donc, ça a été toujours une migration. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver, en tout cas, je prends le cas du sud du Bénin, on est venu d'Adiatado, chez moi. Donc, on est venu du Togo, quelque part du Togo. Après, on va vous dire, on est venu de l'Égypte pour descendre et tout ça, pour ceux qui sont spécialistes des questions de migration. Donc, il y a toujours de mouvements. Et puis, moi, venant d'un village de pêcheurs, nous avons des gens qui partaient au Nigeria pour 3-4 mois pour aller faire la pêche au Nigeria. Et après, ils reviennent de toutes les façons. Donc, ils ne vont pas s'installer là-bas. Donc, il y a des périodes où on sait que là-bas, il y a du poisson. Donc, c'est la saison où on peut pêcher du poisson, où le lac ou le fleuve regorge d'assez de poissons. Donc, on part et puis on revient. Donc, c'est ces migrations-là qui sont économiques. Et puis après, il y a des migrations, je dirais, liées à la vie, liées aux aléas climatiques aussi. Donc maintenant, ce qu'on fait toujours par rapport à ces migrations, moi, je prends toujours l'exemple de mon village. Il y a beaucoup de gens qui étaient partis au Nigeria parce que l'économie du Nigeria florissait. Le Naira, un Naira équivalait à 500 francs CFA, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, du coup, il y a pas mal de gens qui sont allés du côté du Nigeria c'est pour des raisons économiques, ces migrations-là. Mais les gens revenaient toujours au village, généralement à la fin de l'année. Donc, la famille africaine n'empêche pas la migration. Ça, c'est ce que je peux dire globalement. Maintenant, dans la situation moderne qui est la nôtre, qu'est-ce que la famille peut faire? Je crois que tout le travail qu'on fait, c'est toujours dans le domaine économique. Donc, la migration économique, surtout. Donc, il faut maintenant voir les conséquences de la migration, voir aujourd'hui la perversion qu'il y a par rapport à la migration. Mais généralement, l'exemple que je donne du village, c'est des gens qui partent et qui reviennent pour des raisons économiques. Et puis, le village s'est installé en fuyant la guerre pour s'installer là où elle est.
Je ferai un petit complément par rapport aux deux questions sur le développement déjà économique. En fait, il y a une économie qui se faisait qui était communautaire. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, cette économie a complètement changé. Or, elle laisse énormément de personnes en marge de la société. Pour avoir un travail, il faut avoir fait des formations, il faut être instruit. Or, pour le moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui ont eu un cursus qui peut faire en sorte qu'ils soient capables de relever la famille. En Afrique, ce qu'il faudrait comme économie, ce serait l'économie sociale et solidaire. Elle se rapprocherait beaucoup plus de notre culture économique de base, mais en faisant travailler l'économie parallèlement. Ça, c'était sur cette question. Et par rapport à l'immigration, on revient toujours à la mondialisation. Dans cette mondialisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui sont restées en marge de la société. Or, dans les grandes villes, maintenant, pour vivre un peu normalement, il faut être en ville. Pour être en ville, il faut pouvoir travailler. Pour travailler, il faut avoir fait des études. Comment on fait pour pouvoir avancer avec toutes nos familles alors qu'on se retrouve avec une modernisation que nous ne connaissons pas, mais dans laquelle on doit pouvoir se battre? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, pour le moment, en Afrique, il faut être dans les élites, il faut être instruit, il faut être cultivé pour pouvoir accéder à cette mondialisation, pour pouvoir vivre normalement. Donc, on va aller là où ce développement est déjà installé, parce que là-bas, il y a des places pour tout le monde. Tout le monde peut avoir une place. Pour le moment, en Afrique, avec l'évolution qui se fait actuellement, il y a énormément de personnes qui sont en marge. Et donc, comme elles ne rentrent pas dans les cadres qui font qu'elles puissent travailler normalement, elles vont chercher là où elles peuvent travailler avec le minimum qu'elles ont. Et donc, comme le disait le pasteur Kiki, on est un peuple qui est habitué à se déplacer quand il ne trouve pas de quoi vivre là où il est. S'il ne peut pas trouver de quoi vivre, il va se déplacer et chercher un endroit où il peut, avec ses moyens, vivre. Donc, les familles, je ne dirais pas qu'elles n'encouragent pas l'immigration, mais en fait, c'est quelque chose qui est... quand les parents ne travaillaient pas, les enfants allaient en ville pour aller, puisque c'était il fallait aller en ville pour pouvoir vivre. On ne vivait plus que de l'agriculture. Donc, les parents acceptaient que les enfants aillent loin dans les capitales pour travailler, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir vivre. Donc, effectivement, beaucoup de personnes, quand elles ne trouvent pas comment s'en sortir en Afrique, elles vont chercher les voies et moyens pour trouver un endroit où elles peuvent se battre avec leur force pour pouvoir vivre et subvenir aux besoins de leur famille.
Merci. Et une forme de migration. Merci. Une forme de migration aussi, c'est l'exode rural, hein, qui avait eu, il y a encore, c'est ce que Huguette est en train de dire, parce qu'on estime qu'au village, on n'a pas le mieux-être, et il faut aller chercher ce mieux-être en ville. Donc, il y a Omer qui voulait intervenir.
Oui, je peux soutenir l'idée que vous avanciez. En fait, en Afrique, la migration dont on parlait, c'était en fait ce qu'on peut appeler une migration saisonnière. Et c'est en fonction du fait que de l'autre côté, la période de la pêche, comme vous avez dit, quelque part au Nigeria, on y va et puis on revient s'installer. Et c'est comme aussi entre le Bénin, le Togo, avec aussi la Côte d'Ivoire, les gens font ces déplacements-là et simplement de façon saisonnière. Et puis, et quand ils reviennent, ils s'installent. C'était tellement aussi entre les peuples, et sécurisé d'une façon ou d'une autre. Mais aujourd'hui, bon, ce dont on est en train de voir un peu partout, c'est cette immigration non sécurisée. Et c'est là où peut-être je peux déjà dire au niveau de la CEVA, nous avons, avec les églises, commencé par travailler en ce sens-là, dans le cadre de la lutte contre les migrations non sécurisées, surtout au niveau de la jeunesse, où il faut expliquer à la jeunesse que ben, il ne s'agit pas de, de partir pour partir, mais on peut faire aussi tout ce qu'on peut faire ailleurs et chez soi d'une manière plus adéquate. Et l'Église et la CEVA est dans ce rôle-là. Et tout dernièrement, au niveau du Togo, avec les églises de la région Afrique occidentale et du Nord, il y a tout ce séminaire-là que nous avons partagé ensemble pour décourager les migrations non sécurisées. Et je pense que je voudrais ajouter ce pan au niveau du débat. Merci.
Merci beaucoup pour vos précisions.
Encore une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les personnes savent ou se doutent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes? Parce que peut-être les pouvoirs publics sont un petit peu défaillants. Ici, dans nos sociétés occidentales, on attend toujours les aides de l'État, il y a Pôle emploi, il y a tout un tas de sécurité, de garanties qui n'existent peut-être pas en Afrique encore à l'heure actuelle. Donc les gens sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes et aller effectivement là où il y a du travail pour gagner leur vie et soutenir leur famille.
Là, une première question. Une deuxième. Jean-Marie, vous parlez de l'Afrique. Célestin, si on parle de l'Afrique du Nord, est-ce que les problèmes sont les mêmes? Est-ce que le modèle familial est le même? Est-ce que son évolution est la même? En particulier du Maghreb.
Merci, Philippe. Heureusement, on a la chance d'avoir quelqu'un de l'Afrique du Nord.
Nabil.
Voilà, il y a Nabil qui est là. Je crois que je vais lui laisser la parole. Après, je reviendrai à la préoccupation de l'absence de l'État.
Oui, l'Afrique du Nord a vécu quelque chose d'un peu différent. Elle a accédé à l'indépendance au début des années 60 et le taux de natalité était extrêmement important et les pouvoirs publics ont compris que pour prendre en charge la population, il fallait rapidement diminuer cette natalité et donc ils ont encouragé un peu toute la politique de contraception et tout ça. On a construit beaucoup d'écoles, on a formé les jeunes. Pourquoi ? Parce que contrairement à l'Afrique subsaharienne, il y avait le pétrole qui était la ressource principale des États et qui finançait énormément les projets de développement. Et donc la famille est passée d'une famille moyenne de 8 personnes, enfin de 8 enfants, donc 10 personnes, à des familles de 4 enfants en moins de 30 ans. Je veux dire, en 1900, à la fin des années 80, on était déjà à 2 enfants par famille. Et donc, ça a encouragé la politique de logement et donc la création de cellules individuelles moins importantes que les cellules traditionnelles où justement, il y avait le patriarcat, il y avait les grands-parents, les parents, les petits-enfants, les tontons, les tatas, etc. Tout ça a éclaté sous forme de cellules indépendantes, même si moralement et au niveau affectif, on était toujours restés liés. Mais l'Afrique du Nord a toujours d'ailleurs en face l'Europe, et donc le modèle européen a été beaucoup suivi, même si une partie du pays est restée dans le modèle traditionnel. L'Afrique du Nord aujourd'hui a une structure globale. Par exemple, la polygamie existe, elle est officielle, elle est légale, mais pour la mettre en pratique, c'est tellement compliqué que on n'entend plus du tout parler de polygamie. C'est extrêmement rare. Et même au niveau de la société, c'est mal vu. Une famille où il y a un homme avec 2 épouses ou 3 épouses, c'est extrêmement mal vu. Et donc la société a beaucoup évolué depuis les indépendances des années 60. C'est valable essentiellement en Algérie et au Maroc, parce que la Tunisie, elle, a pris l'envol en libérant la femme du temps de Bourguiba. Donc déjà dans les années 60, en libérant la femme, ils se sont modernisés rapidement. Oui, sauf les sociétés rurales qui sont restées un peu à la traîne, mais voilà. On a été dopé par le pétrole.
Oui, le constat qui est fait, je partage ce constat-là aussi par rapport à l'absence de l'État. Et vous savez, comme je l'ai dit, l'Afrique traditionnelle rurale, majorité rurale, les structures de l'État sont pratiquement absentes et inexistantes. Et il faut dire que l'économie en Afrique est informelle, c'est-à-dire l'informel domine plus. Et ça, c'est tout le problème. Donc l'informel a pris le dessus, si bien que quand par exemple quelqu'un vous dit là-bas je suis malade, vous êtes malade, vous êtes pris en charge par vous-même. Il n'y a pas une structure qui vous prenne en charge, comme ici où vous avez la sécurité sociale. La sécurité sociale là-bas, c'est réservé pour des gens qui travaillent. Donc, pour des fonctionnaires, pour la plupart de temps, encore que là-bas, même s'ils sont déclarés à la sécurité sociale, la prise en charge n'est pas à 100%. Donc, voilà un peu ce qui se passe, parce que les statistiques montrent que ceux qui sont affiliés à la sécurité sociale, c'est un peu peut-être le quart de la population. Je n'ai pas les statistiques exactes, mais voilà, donc ce qui se passe, ce n'est pas comme ici en France, avec le système de prise en charge, le système de sécurité sociale. Et puis, il y a des domaines régaliens ici. Et là-bas, c'est vrai, on utilise les mêmes termes. On dit ce qui est régalien, mais vous allez voir que l'éducation, encore, c'est le secteur privé qui contribue à cela, confessionnel. Nous avons encore, dans le domaine de la santé, on a des hôpitaux confessionnels. Et la CEBA a mis en place un projet que nous appelons le projet Solidarité Santé pour renforcer un peu le système de santé. Les doter d'équipements et renforcer la capacité à travers la formation, faire l'approvisionnement en médicaments. Donc, tout cela, nous le faisons avec quelques hôpitaux professionnels. Donc, normalement, avant, au début, on dit que les écoles confessionnelles sont pour les plus démunis. Et puis, au niveau de la santé, on dit que c'est pour les plus démunis parce qu'il y avait des subventions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et les hôpitaux avec lesquels nous travaillons, il y a des pays où les hôpitaux confessionnels, surtout dans les pays francophones, il n'y a pas de subvention de l'État. Alors que dans le système anglophone, si je prends par exemple le Ghana, il y a des subventions. L'État affecte même du personnel dans les hôpitaux confessionnels. Donc, il y a plusieurs modèles comme ça. Dans ce cas-là, les hôpitaux, ce n'est plus pour les plus démunis. Donc, les frais de consultation, il faut couvrir les frais du personnel, donc couvrir les salaires, donc les charges salariales. Du coup, on voit aujourd'hui que l'école confessionnelle coûte plus cher que l'école publique, parce que le public est soutenu par l'État à la subvention de l'État. Donc, même chose dans le domaine de la santé, où avant, les frais de consultation ne sont pas élevés, mais aujourd'hui, à cause des charges, de tout ce qu'il faut, bon, ça devient de plus en plus cher. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Quelques exemples pratiques.
Juste dire que la thématique était très intéressante, mais trop large, parce que l'Afrique, c'est énorme. Oui. C'est des situations qui sont un peu différentes entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud. Le constat peut être le même, mais l'évolution n'a pas été faite de la même manière.
Et je voulais ajouter par rapport à l'Afrique qu'en fait, l'Afrique subit vraiment la mondialisation. L'Afrique subit la mondialisation. Il y a une économie qui s'est mise en place, mais plus de la moitié de la population n'a pas les armes pour pouvoir vivre dans cette économie-là. Et on voit ça sur l'éducation et notamment maintenant sur les personnes âgées. Maintenant en Afrique, les personnes âgées commencent à vivre de plus en plus longtemps, à avoir des maladies chroniques et à devenir dépendantes, ce qui n'existait pas dans la culture traditionnelle, dans les villages. Les personnes âgées, quand elles s'arrêtaient de bouger, elles mouraient. Maintenant, avec l'évolution de la science, les personnes vont rester vivantes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, par exemple, prendre en charge la personne âgée. On ne sait pas prendre en charge la dépendance. On ne sait pas prendre en charge le handicap. Or, on se retrouve dans une société, dans une économie dans laquelle on n'a pas les armes. Donc, c'est vraiment... l'Afrique doit vraiment s'accrocher pour avancer à l'économie sociale et solidaire, parce qu'en fait, comme on vit quand même toujours en groupe, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et donc, c'est vraiment un vrai problème de société. Comment on doit faire pour pouvoir s'adapter à la mondialisation à laquelle on ne peut pas échapper ?